France.
LFM, l'invité du 6-9.
C'est le médecin le plus connu de Belgique. Pourtant, ses patients sont bien silencieux puisqu'il est médecin légiste. Il revient avec des nouveaux récits de son quotidien dans La mort, c'est ma vie. Philippe Boxeau, bonjour.
Bonjour.
On s'est déjà vu l'an dernier
et
ici
oui,
à Lausanne.
Déjà un an, ça va vite.
Et décidément, l'engouement ne s'essouffle toujours pas.
Ben non, c'est étonnant. Hein. Moi, je comprends pas. Allez, je parle de mort. Donc, normalement, ça devrait pas intéresser tout le monde. Et pourtant, ça intéresse plein de gens. Je crois que le fait de parler de la mort, alors que c'est un truc qui est caché en permanence, la mort, on le voit plus. Si vous allez voir un de vos proches qui est mort, vous allez voir un cercueil fermé. Donc la mort, on la voit plus, on la côtoie plus, on veut plus la voir, je crois. Et en même temps, ça reste un mystère. Donc à travers mes bouquins, j'ai l'impression que je ressuscite ce mystère et que les gens viennent lire pour savoir un peu ce que c'est.
Votre métier, c'est de trouver des réponses au pourquoi de la mort. Est-ce que des fois, vous êtes resté sans réponse?
C'est pas pourquoi de la mort. Le pourquoi de la mort, c'est autre chose. Le pourquoi de la mort, c'est pourquoi meurt-on? On meurt parce que c'est inscrit dans nos gènes. Ça, tout le monde le sait maintenant, il n'y a pas de problème. Mais c'est la cause de la mort. Quelle est la chose qui a amené au fait que l'on meurt? En fait, moi, je suis toujours ébloui par le fait que quelqu'un soit en vie. Quand vous voyez ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule, le nombre de réactions biochimiques qu'il y a à la seconde, même au quart de seconde, dans une cellule, c'est complètement incroyable. Il faudrait un mur gigantesque pour dessiner toutes les réactions biochimiques qui se déroulent au même moment dans une cellule, sans interaction les unes avec les autres. Moi, je trouve ça formidable. Donc, la vie est pour moi un mystère beaucoup plus grand que le fait de mourir. Le fait de mourir, ça me semble normal. Ça me semble normal qu'à un moment donné, un truc aussi complexe que nous, que nos organismes, je parle pour les animaux aussi, c'est pareil, hein, que nos organismes s'arrêtent, voilà. Alors oui, j'adore aller à la recherche de la cause du décès, c'est passionnant, c'est vraiment une passion. De l'identifier formellement, parce qu'on est quand même en droit pénal, donc on est dans un droit en Suisse comme en Belgique, comme partout d'ailleurs, qui a besoin de certitude, on a besoin d'être certain que c'est bien de cette cause-là que la personne est décédée, avant d'aller mettre éventuellement, si ça se met, en prison, quelqu'un pour quelque chose qu'il n'aurait pas commis, voilà.
Et quand on ne sait pas, est-ce qu'on se sent comme un urgentiste qui n'a pas réussi à sauver un patient?
Ah non, parce que moi, il est de toute façon mort, donc ça c'est bon. Enfin, c'est bon, c'est dommage pour lui, mais c'est bon pour moi. Non, l'autopsie blanche, ça arrive. Alors l'autopsie blanche, on va aller plus loin. L'autopsie blanche, ça veut dire on ne trouve pas la cause de décès à l'autopsie. Donc macroscopiquement, comme avec mes yeux, quoi, je ne le vois pas. À ce moment-là, on va faire de la toxicologie. On va se poser la question, tiens, c'est peut-être un empoisonnement. Si c'est pas ça, on va faire de l'anatomopathologie, c'est-à-dire qu'on va regarder les organes au microscope. En général, on le fait tout en même temps, hein. Je vous rassure, mais on va interroger les organes pour leur demander, tiens, c'est pas toi qui es en cause dans le décès du gars, c'est pas toi qui a fonctionné de travers, voilà. Et si on trouve pas, eh ben, il reste un diagnostic différentiel dont la cause principale, c'est le trouble, ce qu'on appelle le trouble malin du rythme cardiaque, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, le cœur déconne, son rythme cardiaque ne fonctionne plus correctement, il s'arrête et malheureusement il n'y avait personne pour le faire repartir.
Philippe Boxeau, dans La mort c'est ma vie, quatrième livre que vous signez, nouveauté, vous avez intégré deux récits que vous analysez avec votre savoir-faire.
Je l'ai déjà fait avant mais c'était pas les mêmes, vous avez raison, c'était différent, c'était des récits historiques avant que j'avais mis dans les précédents, là c'est pas historique du tout, enfin si c'est des morceaux d'histoire quand même, le plafond de la chapelle Sixtine était peint au 16e, c'est un morceau d'histoire, et puis Linceul de Turin il apparaît au 14e, c'est aussi un morceau d'histoire d'une certaine manière, mais c'est avant tout pour le plafond, c'est de l'art, c'est l'art de Michel-Ange, et pour le linceul de Turin on sait toujours pas d'où vient l'image, donc on peut pas dire que c'est de l'art, sûrement pas parce qu'on a rien trouvé qui permette de dire que c'était de l'art, mais c'est des sujets qui me passionnent, je voulais en parler dans les bouquins. En fait, j'avais carrément voulu faire un bouquin sur le linceul de Turin. Et mon éditeur m'a dit que c'est pas une bonne idée parce que tu vas surprendre tes lecteurs. Ils vont pas comprendre pourquoi tu passes de récits scientifiques, en fait, mais médico-légaux, à un récit aussi scientifique, mais tourné vers un bout de tissu que, pour certains, ils connaissent même pas. Donc j'en ai fait un chapitre qui est un peu plus long, je sais pas si vous avez vu, mais il fait à peu près la taille de 3 chapitres ordinaires à l'intérieur du bouquin, et mon éditeur a accepté, ça je lui en suis reconnaissant, d'intégrer des photos qui permettent, aussi bien pour le plafond de la chapelle Sixtine que pour le linceul de Turin, de voir ce dont je parle.
Et alors du côté des histoires vécues, il y a celle de Nathan, Anouchka et son amant, qu'on va pouvoir lire.
Ça c'est une histoire complètement folle qui est arrivée en Belgique, dans une région du pays qui est un peu froide, hein, très froide même en hiver. Et c'est un monsieur qui se prend une stalactite en allant sortir ses poubelles. Donc il sort sa poubelle, il revient, il prend une stalactite qui tombe de son toit, lui rentre Il était pas chaudement vêtu, hein. Il était chez lui, il faisait chaud à l'intérieur. Et qu'il lui rentre ici à hauteur du. Juste en latéral par rapport au cou. Oui, c'est vrai, je monte l'endroit, mais on n'est pas à la télé. C'est un peu con. Et la stalactite pénètre dans le poumon, elle lui sectionne un vaisseau sanguin assez important. Il se met à saigner, il en meurt. Mais quand on arrive sur place, la stalactite a fondu. Donc on ne voit pas l'arme. On ne voit pas non plus de traces de pas dans la neige d'un potentiel auteur. On se demande vraiment ce qui se passe, quoi. L'enquête est partie, on a cru que c'était sa femme, donc c'est Anouchka, voilà. Mais elle était partie avec son amant en voyage, et on a des photos du voyage, on sait qu'ils sont partis. Donc on a la preuve que ça ne peut pas être elle, ni son amant d'ailleurs, puisqu'il était avec elle. Et puis, ok, ça va, l'enquête avance. Elle avance, mais en fait, elle avance pas du tout. Il y a juste le temps qui s'écoule, avec une enquête qui piétine, et le juge décide de faire une reconstitution. Et à la reconstitution, je suis là. Et je suis là, mais on est en plein été à ce moment-là. Je suis là à côté du policier qui m'a reçu sur place. Je papotais avec lui. Et comme d'habitude, vous savez, quand on n'a rien à dire à quelqu'un, on parle du temps. C'est le sujet de conversation par excellence. Et en parlant avec lui, il dit, vous vous souvenez, docteur, comme il faisait chaud, comme il faisait froid. Je dis, ouais, écoute, j'ai même failli me casser la figure sur la plaque de verglas qui était là-bas. Et il me dit, ouais, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a plein de stalactites qui pendaient au toit. J'avais peur qu'elles ne tombent sur l'un d'entre vous et qu'elles vous blessent. Donc j'ai tout cassé. Et c'est là que ça fait tilt. J'ai demandé une échelle, j'étais voir sur le toit, parce qu'en fait, on a retrouvé dans la plaie, à l'intérieur, assez profond, de la mousse. C'est un lichen qui provenait du toit, en fait, qui avait été intégré dans la stalactite, et quand elle est fondue, il s'était déposé à l'intérieur du poumon.
Et des fois, vous avez même des patients qui sont vivants, Philippe Boxo. Ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive.
C'est pas fréquent, et d'habitude, j'en parle pas. Alors, les vivants, c'est des gens, il faut examiner les circonstances d'un viol, par exemple, d'un attentat le plus tard, des coups et blessures, des accidents de roulage, des choses comme ça. Ça fait partie de mon métier, mais j'évite de parler des vivants dans mes bouquins. Ouais.
Vous évoquez quand même une tentative d'assassinat.
Ça, c'est une dame et son mari. Et j'ai donné le nom de deux de mes amis, ils s'appellent Nathalie et Philippe. En fait, ils sont dans tous mes bouquins, ces deux-là. C'est toujours elle qui le tue ou qui tente de le tuer. Ça les fait marrer. Et donc, eux deux, Nathalie veut tuer son mari, ça va plus. Et elle lui prépare une piqûre d'insuline, mais beaucoup trop fortement dosée. Il ne meurt pas. Il aurait pu, mais il n'est pas mort. Elle aurait pu rajouter de l'insuline, elle aurait pu le repiquer encore à l'insuline. Elle ne le fait pas, elle appelle les secours. Elle appelle les secours, et puis on se rend compte quand même qu'il y a un problème. Chez nous, on dit un stut. Il y a un stut, il y a quelque chose qui ne va pas. Et parce que le taux d'insuline est beaucoup trop fort, et c'est sûrement pas lui qui s'est injecté, il n'est pas suicidaire. Donc, il y a un souci, l'enquête démarre, on trouve que c'est Nathalie, Nathalie passe aux aveux, Nathalie se retrouve en cour d'assises, Nathalie se retrouve en prison. Et là, c'est les arsoudés, en fait. Et Philippe est allé la voir des tas de fois en prison. Ils se sont vraiment réconciliés. Il a fait des pieds et des mains pour arriver à la voir hors de prison. Il y est parvenu d'une certaine manière, enfin, elle a fait un tiers de sa peine, quoi. Elle est sortie, ils sont restés ensemble, et c'est toujours elle qui lui prépare ses piqûres d'insuline.
Alors, je ne sais pas si c'est une belle histoire ou non.
Moi, je trouve que c'est une très belle histoire. En fait, cette histoire, je l'ai perdue de vue. Et quand j'ai écrit le quatrième bouquin, j'ai fait un truc. Je me suis baladé dans les rues de Liège et d'ailleurs. Et en me baladant, je me suis dit, là, il y a une prostituée qui a été défenestrée. Là, il y a eu ça. Et ça a fait la trame de mon quatrième bouquin.
Et c'est justement une histoire qu'on va lire dans La mort, c'est ma vie, aux éditions Kenes, Philippe Boxo. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Et à bientôt.
À bientôt, oui.
Interview à retrouver en podcast sur lfm.ch.